chapitre 13. Le métro aérien de Brooklyn offrait un panorama à 360 degrés de la ville de New York, de la skyline étincelante de Manhattan jusqu'au toit des immeubles trapus de Park Slope ou Carroll Gardens. Fourmilières verticales ou dortoirs entassés, chrome rutilant ou briques sales, dans chaque interstice se disséminait la foule pressée ou le trafic routier ralenti. Kat descendit à la station de Smith 9th Street, qui surplombait le Gowanus Canal et ses péniches chargées de déchets industriels, et dévala les escaliers pour se retrouver au milieu d'une zone d'entrepôts, de friches grillagées et de petits commerces vétustes aux néons branlants. Elle passa sous l'autoroute BQE et ses hauts pylônes d'acier peints en vert et se demanda ce qu'un food truck faisait là, dans le vacarme abrutissant des voitures au-dessus, préférant ne pas imaginer quel genre d'endroit sordide ce devait être une fois la nuit tombée. Elle n'avait pas envie de le découvrir et devait se dépêcher pour s'épargner cela. Chaque chose en son temps. Là, ce qui compte, c'est de savoir à quoi ressemble ce Silas Okporo. Et s'il s'agissait bien du garçon que Lena appréciait, d'après sa collègue du Starbucks. Lena Fowlings conservait sa carte de visite dans ce qui ressemblait à une compilation des lieux ou événements qu'elle aimait. Peut-être que ce Silas pourrait renseigner la détective sur ce que la jeune femme avait en tête avant de se volatiliser. À mesure que Kat s'éloignait du serpent monstrueux que composait l'autoroute aérienne, la vie semblait déserter les rues. Bâtiments tassés, mal entretenus, tagués, parfois abandonnés, parking envahi de mauvaises herbes, bitume craquelé et constellé de nids de poules plus gros que des ballons de basket. Les quelques passants marchaient vite, à l'abri dans leurs pensées. Les voitures avaient connu plusieurs vies depuis la présidence de Bush père au moins. Red Hook avait été un quartier célèbre dans les années 1980 pour avoir servi de cimetière à la mafia. Nombre d'exécutions avaient eu lieu dans ces impasses, ruelles et arrière-cours isolées, sans compter les cadavres retrouvés, mal lestés, dans le Gowanus Canal. Durant les années 2000, Red Hook, résistant à toute tentative d'amélioration, les politiciens et entrepreneurs avaient redoublé d'efforts pour tenter d'imposer la fameuse gentrification, renouvellement économico-social d'un quartier par injection massive d'individus des couches supérieures, sans succès. Ni l'installation d'un Ikea, ni les travaux opérés à droite et à gauche pour tenter de doper l'attrait du secteur n'avaient suffi. La greffe n'avait pas pris. Red Hook était une excroissance maligne sur le bord de Brooklyn et personne ne voulait faire partie d'une tumeur. Un semi-remorque passa en ronflant tout près de Kat, qui finit par bifurquer dans Lorraine Street. Elle était arrivée. La boutique de Silas Okporo n'était indiquée que par une enseigne en bois suspendue au-dessus d'un passage conduisant à un entrepôt marron. Qui venait jusqu'ici pour ce genre d'article?
Des fêlés, des illuminés, comme Lena.
Kat s'engagea dans le passage et découvrit une porte de hangar relevée. Un écriteau ouvert de travers, arrimé à une cordelette. À l'intérieur, la lumière du jour peinait à s'imposer par les rares lucarnes horizontales situées à plus de 5 mètres de haut près du plafond. À peine entrée, Kat fut saisie par l'odeur d'encens boisé et musqué. Une immense gueule au croc pointu et surmontée d'yeux menaçants jaillit devant elle et la fit s'immobiliser. Mesurant plus de 3 mètres, elle devait peser plusieurs tonnes, entièrement sculptée dans de la pierre et représenter une sorte de dragon maléfique. Sympa pour souhaiter la bienvenue. Tout autour, le hangar recueillait d'autres êtres au moins aussi inquiétants. Poteaux de bois taillés en démons, diables d'ébène, gargouilles ramassées sur elles-mêmes ou au contraire ailes déployées au-dessus de l'allée. Plus Kat avançait prudemment, plus elle découvrait l'étendue de la collection. Il y en avait de tous les gabarits, alignés sagement ou au contraire entassés en une meute indisciplinée, mais personne en vue. Elle contourna une table en noyer dont les pieds représentaient des succubes lascifs aux seins proéminents et au sourire aussi lubrique que perfide. Plusieurs cônes d'encens brûlaient dans des vasques ressemblant à des bénitiers profanés. Qui achète des horreurs pareilles? Y avait-il à New York des banquiers satanistes ou des chefs d'entreprise gothiques?
des artistes, des excentriques.
4 marqua une ouverture vers une autre pièce plus basse et plus sombre encore. Un morceau de carton glissé derrière un tuyau pointait dans cette direction avec la mention « Renseignement ». 4 s'y engagea lentement. Ici, le plafond était à taille humaine et des étagères s'alignaient les unes derrière les autres sous l'éclairage anémique de 4 lanternes rivées à des clous dans les murs. Le parfum de musc et de cèdre mêlé s'intensifia. D'autres cônes brûlaient un peu partout. « Y a quelqu'un ?» demanda-t-elle. Sa voix vint se briser sur les lourdes étagères garnies de couteaux rituels à la fabrication exotique, de fioles contenant des racines, des herbes et des concentrés de fleurs, ou d'ouvrages parfois en piteux état sur différents types de magie. Les montants servaient à accrocher des lances et des masques tribaux africains dont certains arboraient une expression effrayante, et presque sur chaque planche se trouvait au moins un animal empaillé, furet, renard, belette, mais aussi plusieurs serpents, chouettes, vautours et même un tapir. Un zèbre fermait le fond d'une travée avec sa masse imposante et il fixa 4 de ses billes de verre. Elle repéra également des scorpions et des araignées de toute taille, parfois plus grands que sa main, et elle frissonna. Quelques-uns s'abritaient dans des boîtes vitrées, la plupart seulement posés sur leurs pattes fines, prêts à bondir.
« Ne sois pas débile. »
4 s'engagea dans une allée à la recherche d'un comptoir et tomba nez à nez avec un crocodile de plusieurs mètres. Posé là, au sol, il avait la gueule ouverte, le regard fixe, impassible, comme s'il attendait le moindre geste de sa proie pour déclencher son attaque. 4 recula sans détourner son attention, puis s'aventura dans un autre passage.
« Ok. Déjà je sais que ce Silas Okporo est un odieux connard qui s'amuse à foutre la trouille à ses clients. »
4 réalisa alors qu'elle déambulait au milieu de centaines d'yeux, du sol au plafond. Ils flottaient tous dans un liquide brun, parfois minuscule, d'autres de la taille d'une orange, une collection absurde et dégoûtante, et tous la regardaient, inerte, à travers le globe de leur bocal, la lueur ambrée d'une lanterne non loin transperçant cette eau épaisse. 4 commençait à ne pas se sentir très bien.
« Certains sont humains », annonça une voix douce devant elle.
4 pivota instantanément. « Pardon ?»
Les yeux, fit une ombre derrière une étagère. « Certains sont humains. »
« C'est dégueulasse !»
ne put s'empêcher de lâcher 4. La silhouette marchait doucement, parallèlement à la détective privée. Encore 3 mètres et les deux allaient pouvoir se faire face.
« Vous savez ce qu'on dit sur les yeux, n'est-ce pas ?» ajouta l'homme à la voix grave.
« Ils sont le reflet de l'âme, c'est ça ?»
dit 4 un peu agacé par cette mise en scène.
« Exact. Alors imaginez donc toutes ces âmes capturées qui vous observent en ce moment même. »
Ils étaient parvenus au bout de l'allée et l'homme apparut vêtu d'un fin manteau de cuir qui ressemblait à une cape. La peau aussi sombre que sa parure, tempe rasée surmontée d'un bouquet de dreadlocks attaché par des épingles en cuivre ancien, il dominait 4 d'une bonne tête. Son regard, à peine décelable dans la pénombre au fond de ses orbites creusées, brillait pourtant d'une lueur fixe. 4 scruta son cou. Un as de pique tatoué sur la gauche et un crâne presque souriant de l'autre côté. Il semblait sur le point de fondre.
C'était bien lui.
Silas, pour vous servir. 4 mentait rarement sur son identité lorsqu'elle était sur le terrain. Son expérience, et Bictoni le lui avait souvent répété autrefois, lui avait prouvé que la plupart des gens se confiaient assez facilement à un détective privé. La fonction garantissait un cadre, un professionnalisme. Il ne s'agissait pas juste de répondre à un inconnu de passage, et pour autant ce n'était pas comme avec un flic. Les témoins ne se sentaient pas en danger d'être directement impliqués, convoqués au commissariat, voire carrément au tribunal. Le privé rassurait, là où le flic inquiétait. Elle ouvrit son porte-carte pour dévoiler sa licence.
« Je cherche une fille que vous connaissez bien, Lena Fowlings. »
Lui montrer dès le début qu'il ne sert à rien de nier, de faire semblant de ne pas la connaître. L'homme esquissa un rictus amusé.
« Cette chère Lena. »
« Elle ne donne plus signe de vie depuis 10 jours. Sa famille est mortifiée. Vous savez où elle est ?»
Silas Okporo pivota pour mieux jauger son interlocutrice. Une lanterne parvint à capter l'éclat de ses yeux au passage.
des billes noires d'une intensité dérangeante. Pendant un instant, Kat eut l'impression qu'il cherchait à pénétrer en elle, à fouiller ce qu'il y avait derrière la fine barrière de son regard, et elle ne se sentit pas bien.
« Reprends-toi. C'est son manège, tu es sur son territoire, il en joue, c'est son business. »
Mais les senteurs puissantes de l'encens, la pénombre, le décor et sa présence magnétique n'aidaient pas Kat à reprendre le contrôle de ses émotions. Silas se rapprocha encore un peu. Elle pouvait le sentir. Une odeur agréable, animale, presque sexuelle.
« À quoi joue ce type ?»«
Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ?» insista la Quadra. « Restez dans l'action, guidez l'entretien. Voilà comment elle pouvait garder le contrôle. »« Samedi dernier. » Kat se redressa intriguée. C'était enfin un signe de vie, le premier depuis 10 jours. « Vous êtes sûr ?»« Samedi, il y a 6 jours. »
Silas acquiesça.
Elle est venue me rendre des livres que je lui avais prêtés.
Quel genre de bouquin?
Malgré le peu de lumière, Kat distingua un sourire se dessiner sur les traits du vendeur à la taille imposante, et elle crut apercevoir une dent sombre percée d'un éclat fugitif au niveau d'une incisive, comme un diamant au centre d'un implant. Silas désigna leur environnement.
À votre avis?
Sur la magie? Elle y croit?
La véritable question est de savoir si vous, vous y croyez, Miss...
Cordol. Et non, je ne suis pas adepte de ce genre de pratique. Est-ce que je peux vous demander la nature de vos relations?
Silas la toisa un moment avant de répondre. Je suis une sorte de mentor.
Kat craignait de faire l'objet de son prosélytisme, alors elle décida de ne pas poursuivre sur ce terrain. Vous vous connaissez depuis longtemps? J'ai cru comprendre que Lena n'a pas beaucoup d'amis et encore moins de compagnons de longue date.
Ça remonte à cet hiver. Environ 6 mois. Elle est venue ici un jour pour voir, discuter, et elle est repartie avec plusieurs ouvrages. Elle avait entendu parler de moi une soirée.
Elle sort beaucoup?
Disons qu'elle s'occupait. En tout cas lorsque je l'ai connue. Plus rarement ensuite.
Vous savez pourquoi?
Parce qu'elle en éprouve moins le besoin.
Lena chassait la solitude et la mélancolie en enchaînant les soirées et les concerts.
Puis elle s'est apaisée. Elle s'est plongée dans l'apprentissage.
On y revient. Je ne vais pas y couper. De la magie, c'est ça? Elle vous a dit ce qu'elle y cherche?
Silas inspira profondément, sans lâcher Kat de ses deux puits sans fond. La connaissance, le pouvoir, des alliances, tout ce qui fascine l'humain.
Et à travers ses lectures, vous pensez qu'elle a trouvé tout ça?
Silas se mit à marcher lentement en tournant autour de Kat. Les bocaux remplis de globes oculaires les toisaient, et soudain la détective privée eut le sentiment qu'il la regardait tous. Lire, c'est ouvrir son esprit. Mais pour que celui-ci grandisse, ensuite il faut pratiquer.
Kat ne put s'empêcher de repenser au chat à l'abdomen béant, les os pyrogravés. Elle hésita. « Si je vous montre une photo, vous pouvez identifier des symboles ésotériques ?»
D'un geste de la main, Silas l'invita à poursuivre. Kat sortit son appareil photo et retrouva un cliché où les symboles étaient assez visibles, puis zooma au maximum pour éviter qu'on puisse identifier leur support. Silas se pencha, enveloppant au passage la détective privée de son odeur troublante.
« C'est de l'énochien, » dit-il sans la moindre hésitation.
« Le langage de la magie. »
Jamais entendu parler?
Les initiés le connaissent, dit-il en reprenant sa marche lente autour d'elle. C'est la langue primale. Celle qu'Adam parlait aux cieux avant d'en être chassé. Lorsqu'il s'est réveillé sur terre, il l'avait oubliée. C'est avec les quelques bribes d'Enochiens qui lui restaient qu'il est parvenu à inventer ce qui est devenu par la suite le langage universel que tous employaient avant la tour de Babel. Mais à l'origine de tout mot, il y a de l'Enochien. On l'utilise en magie, ainsi que son écriture. Ce sont ses glyphes.
Kat ne put s'empêcher de faire remarquer. Si même Adam l'avait oublié, comment se fait-il qu'on puisse identifier son alphabet?
Silas nota la pointe de défiance, mais ne s'en formalisa pas. Il répondit dans un rictus. Dis et quel est,
des occultistes britanniques du XVIe siècle, sont parvenus à le retranscrire en communiquant avec des esprits de l'au-delà. Vous devriez vous intéresser à ces deux-là. Ils sont à l'occultisme ce qu'Einstein est aux sciences dures. Katz préféra ne pas insister sur la crédibilité de telles pratiques, c'était au-delà des limites de sa bienveillance et de sa tolérance. Et cet Enochien, Lena Fowlings le pratique. Il est dans certains des livres que je lui ai fait lire. Ça a été gravé sur les os d'un animal, n'est-ce pas? Pour un sacrifice. Du genre, je demande une faveur à un esprit et en échange je lui donne du sang frais? Silas, sans cesser de l'encercler de sa démarche hypnotisante, fit claquer sa langue contre son palais. La mise à mort est là pour créer une brèche entre le monde des vivants et celui des morts. Et c'est au moment où l'esprit du sacrifié passe d'un état à l'autre que le rituel permet d'envoyer un message par cette brèche. Le sang n'a rien à voir, sinon qu'il est au contraire le symbole de la vie. Kat commençait à se lasser du petit manège de Silas. Elle l'arrêta en posant une main sur son avant-bras, dont la manche relevée dévoilait les boucles et les spirales de tatouages indéchiffrables dans ce clair-obscur. L'homme avait la peau froide, à en tomber malade. Cela la perturba une seconde avant qu'elle ne se reprenne. « Vous faites quoi au juste ensemble ?» Je satisfais sa curiosité. Je lui donne de la lecture et réponds à ses questions. Voilà. Dépressive, fragile, cible facile, s'énerva Kat sans rien en laisser paraître. Lena avait juste trouvé une béquille à son désespoir. Kat lâcha Silas. Donc, il y a quelque chose d'écrit là sur la photo. Si vous m'en imprimez un exemplaire, avec un peu de temps, je peux vous le traduire. Une chose était sûre, elle ne pouvait pas lui reprocher son manque de coopération. Lena vous a dit qu'elle comptait sacrifier un animal. Vous savez pourquoi ? Silas se contenta de secouer la tête. Il devait percevoir son dégoût. Vous ne devriez pas vous inquiéter pour elle, répondit-il. Elle va bien. Kat se raidit. Vous savez où elle se trouve ? Cela fait des mois que Lena parle de la mort. Et au début, j'ai pensé qu'elle était sur le point de passer à l'acte, mais elle est revenue avec une lumière nouvelle dans le regard. Tout ce savoir l'intéressait. Il réveillait en elle une envie de vivre qu'elle pensait éteinte. Elle vous a parlé de suicide ? Elle n'en a pas eu besoin. Je l'ai lu dans ses yeux dès la première minute où nous nous sommes rencontrés. Je ne lui donnais pas un mois de survie. Elle a tenu. Et elle s'est éveillée au monde. Parce qu'elle découvrait qu'il est plus que ce qu'on nous apprend. Parce qu'elle en devinait les coulisses, la réalité. Et puis, au fil des mois, elle s'est faite de moins en moins assidue. Elle ne venait plus me voir et ne me rappelait pas. Elle s'est trouvée un ou une amoureuse ? C'est la principale raison qui fait disparaître les gens, en général. Lena n'est pas ce genre de fille. Elle a dépassé tout sentiment de ce style depuis longtemps. Mais je suis allé la voir sur son lieu de travail pour lui rappeler qu'elle avait encore des livres à moi en sa possession. Le passage au Starbucks, puis la visite de Lena samedi dernier pour tout lui rendre, tout se tenait, sans ouvrir d'autres pistes. « Alors qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle va bien ?» insista Kat. Silas s'inclina la tête légèrement en arrière, la dominant de toute sa stature. Il prit le temps de réfléchir longuement. Dans le silence désagréable qui suivit, Kat crut percevoir les remous liquides de tous les yeux qui les scrutaient de part et d'autre de l'étroite allée. Lena s'est rassurée, finit par lâcher le vendeur. Elle a compris de quoi était fait le monde des esprits. Elle n'en a plus peur, et si vous voulez mon avis, ce qu'elle a écrit dans le cadavre de cet animal, ce n'est pas un message pour vous ou moi, vivants. C'est un message pour les morts. Théâtral, il marqua une autre pause avant d'ajouter « Elle les prévient de son arrivée. » Silas se pencha au-dessus de la détective privée. « Miss Cordell, Lena a franchi le Rubicon. Elle est passée de l'autre côté. »